Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le cinéma français à la fête, point d'interrogation à l'occasion de la 44e cérémonie des Césars. Ce soir, retour sur la bonne santé affichée des films hexagonaux et sur ce qui se cache peut-être en creux avec nos deux invités, le sociologue Julien Duval, chercheur au CNRS, auteur du cinéma au XXe siècle, entre loi du marché et règles de l'art, édité au CNRS édition. Bonjour.
Bonjour.
Et Gilles Porte, à vos côtés, directeur de la photographie et réalisateur, ancien président de la CID, ancien co-président et toujours membre, Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui rassemble des cinéastes engagés depuis 92 pour l'accès de tous à la pluralité des formes d'écriture. César du meilleur premier film avec Yolande Moreau pour Quand la mer monte, c'était en 2005, nommé ce soir au César dans la catégorie du meilleur documentaire pour Le procès contre Mandela et les autres. Bonjour Gilles Porte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous voulez rajouter un titre, une casquette, une fonction?
Oui, je suis président de l'ASC, qui est l'association française des directeurs de la photographie.
On est ravis de vous avoir tous les deux avec nous. Meilleure part de marché des films français depuis 5 ans. On enchaîne les records depuis quelques années. Julien Duval, 2018, une année historique pour les films français, a dit Frédéric Bredin du CNC. Tout va bien, on se réjouit.
Oui, enfin, le problème enfin, de ces statistiques, c'est qu'on commande des variations annuelles, enfin d'une année par rapport à la précédente. Et bon, les variations sont de très faible amplitude quand même. Voilà, on est fondamentalement, enfin, on est depuis assez longtemps dans un régime où les parts de marché majoritaires sont du côté des États-Unis. La France est un petit peu derrière et cette année ne fait pas fondamentalement exception.
Mais Gilles Porte, Julien Duval, quand on parle de la bonne santé du cinéma français, à quoi ça tient, comment on le calcule? Quel est le thermomètre?
Mais moi, je trouve pas que le cinéma français est en bonne santé du tout, du tout, du tout. Il faut se poser la question de l'exportation des films à l'étranger, des films français à l'étranger. Il faut se poser la question des films français aux Oscars. C'est quels sont les derniers films français aux Oscars. Faut se poser la question encore de la délocalisation. Pourquoi les films qui se tournent en studio se tournent en Roumanie, en Hongrie, en Europe aujourd'hui? Il n'y a plus de studios en France. Les studios de Bruxelles ont fermé. On peut aussi se poser la question du statut d'intermittent du spectacle qui aujourd'hui en train d'être remis en question. Donc, et qui fragilise beaucoup de professionnels, de techniciens, d'artistes, mais aussi d'associations comme la CID. Donc, C'est un arbre qui cache la forêt. Je crois que les chiffres, effectivement, on nous parle du cinéma américain, les chiffres, parlons du cinéma français. Et quels sont les... on va voir ce soir les films qui sont représentés au César et ceux qu'on retrouve sur les marchés mondiaux.
Il n'y a pas forcément adéquation
moi, vous
entre
savez,
ces deux.
Ce soir, je suis nominé pour le documentaire, vous l'avez cité, sur Mandela, et il a fait 35 000 entrées, ce film. C'est pas beaucoup. On a vu le César pour Quand la mer monte. Quand la mer monte, il avait fait 300 000 entrées. On a vu le César devant un an dimanche de fiançailles et devant Les Choristes, qui avait fait beaucoup plus d'entrées. Donc les entrées, les chiffres, ça veut pas forcément dire grand chose. Moi, je pense aux salles d'arrêt d'essai qui ferment. Je pense aux gens qui se battent. Quand je présente le film dans les salles d'arrêt d'essai, je demande toujours, il y a combien de bénévoles qui travaillent dans une salle d'arrêt d'essai? Et c'est étonnant, parfois vous arrivez sur des chiffres de 70, 80 bénévoles qui travaillent dans une salle d'arrêt d'essai avec deux écrans. Et donc qui font un travail de fond. Qui font un travail de fond. Parce que c'est, si on se pose la question du cinéma, posons-nous la question de l'éducation artistique. Et moi, je pose la question de l'éducation artistique à l'école. Quelle est la place aujourd'hui de l'éducation artistique à l'école? Et malheureusement, on la connaît.
Alors, regardons d'abord l'arbre, hein, avant de s'intéresser à la forêt que l'arbre cache. Vous évoquez ce manque d'adéquation, peut-être parfois aussi entre les récompenses et le marché du cinéma. L'année dernière, en 2018, prix a été remis pour consacrer un film qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées en salle. Ce prix s'appelle le César du public, c'était la nouveauté.
Je suis très heureux d'inaugurer, de recevoir ce premier César du public. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur Red Dingue. Voilà, merci à Alice Paul, à tous les acteurs, les conseillers, les techniciens, tous les agents du Red. Merci aux équipes de Pathé, Jérôme Sédou, Cécile Felsenberg, mon agent, voilà, Sarah Kaminski, Dominique Segal, Mathias Lasser, Laetitia Bouix, Sylvia Feitel, Yael, mes enfants, Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Fauvergue,
Edson
Gigou, Robert Paturel, voilà, je cite pas tout le monde, je me excuse auprès d'eux. Je remercie surtout le public français qui aime tous les cinémas et grâce à qui nous sommes réunis ce soir.
Danny Boone, C'était lors de la remise du César du public en 2018 pour son film Red Ding, qui avait fait un carton en salle. Alors l'année dernière, si on regarde un peu les films qui ont bien marché, ça va des Tuches à la Ch'ti de famille, à Taxi 5 pour les gros blockbusters, comme on dit à la française, mais aussi des films d'animation, comme Dilili à Paris, gros succès aussi pour Astérix. Et puis des films qui sont quand même des films français entre le film d'auteur, peut-être pas, mais en tout cas des films plus indépendants comme Le Grand Bain et Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui ont plutôt bien marché dans les salles l'année dernière. Qu'est-ce que ça, Julien Duval, qu'est-ce que cette répartition nous dit un peu de l'état du cinéma aujourd'hui?
Bah, en fait, il y a un phénomène, enfin, ça renvoie à ce que disait Gilles Porte tout à l'heure, qui est, je pense, assez important, enfin, sur le moyen terme, pas sur, courte période, pas d'une année sur l'autre, mais sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est à peu près ça, il y a un phénomène quand même, globalement, de bipolarisation. Alors, c'est compliqué, il y a plusieurs types de tendances dans le cinéma, comme dans d'autres, comme tous les autres milieux, mais une qui est quand même vraiment importante, c'est une forme de bipolarisation, c'est-à-dire un accroissement de l'écart entre les films à gros budget qui fonctionnent bien et des films à petit budget qui ont plutôt plus de difficultés. Ce phénomène de bipolarisation se repérant aux différentes étapes de la filière, c'est-à-dire à la fois en termes de production, en termes de distribution et puis en termes d'exploitation. Gilles Porte faisait référence tout à l'heure aux salles d'art essai. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que la zone intermédiaire soit complètement vide aujourd'hui. C'était l'une des richesses d'ailleurs du cinéma français que la force de cette région intermédiaire, mais elle est affaiblie enfin par
mais
rapport à...
Mais cette bipolarisation, elle est pas nouvelle, Julien Duval, c'est ce que vous racontez aussi dans votre ouvrage. Il y a toujours eu des tensions, une opposition entre les films plutôt d'art et les films hollywoodiens à grand public, ou des films en tout cas grand public.
Oui, alors il y a toujours eu une opposition, mais l'une des choses, enfin, qui varie selon les époques, selon les pays aussi, les choses ne sont pas les mêmes aux États-Unis, par exemple, et en France, c'est la relation, enfin, entre ces deux pôles. Ces deux pôles peuvent tendre à constituer quasiment deux mondes, bon, dans un cas extrême, deux mondes quasiment séparés, qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, parce qu'ils sont dans des économies fondamentalement différentes, où il peut y avoir toute une continuité, enfin, entre les
liens
deux pôles,
d'interdépendance,
de solidarité économique, de forme de solidarité économique aussi. Voilà, et on vous diffusait un extrait enfin sur le César du public, c'est intéressant, enfin quand même cette création d'une récompense qui est avec toutes les limites que ça a. Les Césars reposent sur le principe, c'est une reconnaissance par les professionnels consacrent d'autres professionnels. Bon, le César du public attribué au film qui a fait le plus d'entrées, et clairement c'est un autre type de verdict, et c'est assez révélateur, enfin le résultat du box-office.
On sait déjà qui va l'avoir ce soir, en fait.
Bah oui.
Et ce sera qui?
C'est le seul, on sait, qui l'aura ce soir.
Et ce sera qui?
C'est les Tuches, non? Je sais pas.
Je pense, oui, j'ai pas revu tous les chiffres. C'est les Tuches, d'accord, merci. C'était une aberration, hein, ce César, pour Julien Gester, qui est journaliste à Libération, ce César du public. Il écrivait à ce moment-là sur Twitter que, contrairement à d'autres arts, l'accès au cinéma est soumis à la distribution des films, le nombre de copies, une certaine couverture du territoire avec des problèmes de concentration considérables. Dire que le public a désigné un film entre tous, comme s'il avait pleinement le choix, comme si tous les films lui étaient présentés à égalité dans leur salle de proximité, est au mieux risible. Trois petits points pour la suite, Gilles Porte.
Bah, si vous voulez, moi, on oppose souvent le cinéma commercial au cinéma d'auteur, ce qui est quand même assez aberrant, parce que un film commercial qui ne marche pas deviendrait un film d'auteur, et un film d'auteur qui marcherait deviendrait un film commercial. Clint Eastwood, qui fait des films dits commerciaux avec la Warner, devient indépendant quand il fait un film sur de la boxe avec une boxeuse, puisque la comédienne n'est pas une actrice bankable du moment. Donc tout ça se croise. Il se trouve que je fais un métier, directeur de la photo, où je travaille avec les deux mondes. J'ai fait un film chez UGC récemment, là j'ai fait un documentaire avec de très peu de moyens, et je vois les deux mondes se côtoyer. Et c'est vrai, aujourd'hui, le milieu n'existe pas. J'ai fait un film là qui sortira la semaine prochaine d'ailleurs, distribué par Diafana et produit par Michel Saint-Jean, celle que vous croyez, avec Jules Bilon, je fais le film de Safine Bou. C'est un film qui devrait être un film du milieu, mais c'est un film qui s'est fait avec moins d'argent ce qu'il aurait dû avoir. Pourtant, c'est un film avec un scénario qui est tiré d'un best-seller français du livre de Camille Laurence, avec Jude Binoche, avec Nicole Garcia, avec François Civil, avec un casting. Mais c'était difficile pour Michel de monter ce film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des films, des comédies en France, qui s'exportent souvent pas beaucoup. à part quelques-unes, hein, à part quelques exceptions. Et on a les autres qui rament pour essayer d'arriver à faire leur film avec des problématiques en amont. Je sais pas si vous comptiez le dire, mais moi je pense qu'il y a en France une problématique sur le scénario, sur les, comment on paye, comment on rémunère les scénaristes. En France, on parle de séries. Oui, on voudrait faire des séries, mais payer les scénaristes, laisser du temps à des scénaristes pour écrire des séries. Et là aussi, je pense qu'il y a un problème de réflexion à ce niveau-là.
De qualité aussi des films, ben ouais, l'écriture.
De qualité, mais de qualité, mais.
Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens.
Mais aussi parce que, et là je vais parler d'image, c'est-à-dire que moi je connais des producteurs qui ont enseigné à la FIMIS et qui ont dit que jamais une belle image n'attirera un spectateur. Et puis finalement je suis à Berlin avec le distributeur du film de Safi, qui est le même que celui de d'Ozon, qui est le même que celui de L'Échange des Princesses, les Playtime, qui me remercie d'avoir soigné un peu la photographie du film, parce que clairement il voit lui les conséquences de ses ventes à l'étranger. C'est-à-dire que, alors, est-ce que c'est une dérive de la nouvelle vague? Je sais pas. De donner toutes les clés du camion à des réalisateurs, à des auteurs qui font parfois des films où on met l'image au second plan, on met parfois le scénario au second plan, encore que. Et oui, je pense qu'il y a un problème de préparation, d'attention, de production. Je pense qu'il y a un problème de production. Il y a souvent des films qui sont mal financés. Il y a souvent des films qui partent au tournage parce que l'acteur bankable du moment qui va faire le con chez Ruquier, il est libre. Voilà, le cinéma français, c'est aussi ça.
Et on peut revenir, Julien Duval, sur ce qu'évoquait à l'instant Gilles Porte, la place des scénaristes, qui est quand même beaucoup moins importante en France qu'elle ne l'est aux États-Unis. Vous qui avez comparé aussi les deux territoires, ça ça fait partie de la culture française d'accorder moins de place aux scénarios, alors que là-bas, aux États-Unis, il peut y avoir une armée de scénaristes qui vont travailler à construire et à bâtir les films.
Les scénaristes ont joué un rôle important en France. Sans doute qu'effectivement, dans la place plus importante, enfin que les réalisateurs ont occupé. Bon, la nouvelle vague a marqué un moment très très important. Bon, par cette valorisation, par la théorisation d'abord, ce qui a été appelé la politique des auteurs. Bon, dans les années 50, cette idée que le film, alors, est une œuvre. Et une œuvre qui a un auteur, et cet auteur est identifié au réalisateur dans la nouvelle vague. Et il y a des travaux sociologiques, par exemple, sur les effets que ça a pu avoir jusque sur les plateaux. Enfin, c'est cette prééminence du réalisateur. Donc, c'est vrai que l'héritage de la nouvelle vague, enfin, reste très, très fort aujourd'hui en France, et sans doute, encore à l'origine de l'importance donnée au réalisateur, quoi.
Oui, mais moi, je trouve ça bien que le réalisateur ait toute son importance. Un film, c'est un train. Il y a une locomotive. Ça doit être le réalisateur. Mais il faudrait que le réalisateur puisse travailler peut-être un peu plus avec son chef décorateur, avec son chef opérateur. Il faudrait que les musiques, le compositeur d'un film puisse travailler peut-être en amont d'un film. Régulièrement, il arrive en cours de montage. C'est ça que je remets en question. Il faudrait que le réalisateur soit moins livré, soit moins seul quand il prépare son film. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui voudraient être entourés, mais qui ne le sont pas parce que les productions ne rémunèrent pas ces gens, qui devraient pourtant accompagner les réalisateurs.
Alors, en France, on le disait, une des films français qui fonctionne bien, une part de marché des films français depuis 5 ans qui est très bonne ou perçue comme telle, mais à l'étranger, c'est là que le bas commence aussi à blesser. C'est que les films français, le cinéma français, visiblement s'exporte mal. Comment l'expliquer, cette mauvaise année 2018 pour le cinéma français à l'étranger? 40 millions de spectateurs contre 82 millions l'année d'avant, c'est quand même deux fois moins de billets vendus, une baisse de moitié pour les films en langue française. Beaucoup pointent l'absence de grosses productions locomotives, pour reprendre votre terme, Gilles Porte, type Valérian en 2017, qui ont permis aussi aux films français d'exister à l'étranger. C'est le point principal pour vous aussi, Julien Duval, ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas faire exporter nos films?
Alors, ces chiffres, c'est un petit peu comme la fréquentation. On se focalise toujours beaucoup sur les variations d'une année sur l'autre. Alors, cela dit, dans le cas du cinéma de l'exportation, c'est des chiffres qui sont très sensibles. Il suffit effectivement qu'il y ait un film qui s'exporte particulièrement bien. En particulier sur ces dernières années, les films produits par EuropaCorp, la société de Luc Besson, pour que les chiffres montent. Il suffit qu'il n'y en ait pas, ce qui a été le cas cette année, pour que les chiffres soient plus mauvais. Après, bon, faut quand même situer la question de l'exportation. représentation du cinéma français dans le contexte international. On est les États-Unis sont quasiment la seule cinématographie enfin qui s'exporte véritablement. Quand on regarde les pays, alors il y a le cas de l'Inde, bon qui est un cas un petit peu à part. Enfin, le cinéma indien est très très puissant dans ses propres frontières, s'exporte sur certaines régions, mais peu sur les marchés occidentaux. Et il est vrai que la France, enfin, arrive parmi les pays qui à la fois s'exporte le mieux après les États-Unis, mais évidemment à un tout autre niveau. C'est de l'ordre, enfin les parts de marché doivent être entre 2 et 4-5%, ce qui est très peu à l'international, mais ce qui est beaucoup relativement. Enfin, c'est vrai que le cinéma français, malgré tout, peut-être parce qu'il bénéficie aussi de l'image qu'il a eue par le passé, et aussi des stratégies du type de celle d'EuropaCorp aujourd'hui, s'exporte mieux que celui de cinématographie comparable par leur taille.
Oui, je voudrais rappeler que derrière Harry Potter, Tim Burton, les frères Cohen, c'est un directeur photo français. Il y a des directeurs photo français qui s'exportent très très bien, qui sont des stars aux États-Unis. Donc on sait faire. Sauf que il faut aussi parfois nous écouter. Et moi, vous savez, je serais pour faire une sorte de retourner la table. De faire un état des lieux du cinéma français avec les monteurs. Aujourd'hui, les monteurs, la post-production se réunit aujourd'hui parce que c'est très difficile pour eux, et de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui après les, moi, j'ai effectivement fait des films parce que j'ai vu des films de la nouvelle vague, mais la nouvelle vague c'était il y a 60 ans. Je pense qu'il faut reconsidérer le marché aujourd'hui. Netflix aujourd'hui est un distributeur qui arrive et qui pose des problèmes, des vrais problèmes, en tout cas des vraies questions. Alors, ça donne des solutions à des réalisateurs qui pourront peut-être montrer leurs films, mais ça pose des questions de retour d'investissement, de cercle vertueux.
Netflix, distributeur du film Roma d'Alfonso Cuarón, Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. D'ailleurs, il y a encore des festivals comme Cannes qui continuent à bouder les productions Netflix. Là, ici, sur Roma, Netflix était avant tout distributeur. Mais cette question des plateformes, elle est soulevée par l'ensemble des professionnels aujourd'hui. Il y en a qui voient une menace, à la fois du côté de la production comme de la distribution, et ceux qui pensent qu'il faudrait peut-être commencer à s'y intéresser sérieusement. 300 films produits par an. La présidente d'Unifrance, Isabelle Giordano, pour expliquer les mauvais chiffres du cinéma français à l'étranger, estimait qu'il serait peut-être temps de renforcer notre présence sur les plateformes. Comment aborder cette question aujourd'hui, Gilles Porte ?
D'abord, avant de parler de chiffres, je voudrais quand même dire un mot sur Roma, que j'ai eu la chance de voir au festival Camérimage en Pologne, donc sur grand écran. C'est pour moi un des plus beaux films des 20 dernières années. C'est un film remarquable. Alors, est-ce qu'il aurait pu... Cuarón dit qu'il n'aurait pas pu le faire au cinéma. Je ne sais pas, je crois pas. Je crois qu'il aurait pu le faire au cinéma. Mais c'est d'abord, au niveau qualitatif, personnellement, un des films les plus remarquables.
Vous l'avez vu sur grand écran, du coup ?
J'ai vu sur grand écran.
Pas sur votre téléphone portable ?
Non, j'ai vu sur grand écran. Et il y a une vraie différence. C'est un film qui est tourné, pour ceux qui s'intéressent à la technique, avec des focales courtes, avec un 27 mm, avec 21 mm, avec parfois 400 figurants dans le champ. Donc, si vous, effectivement, vous le regardez sur téléphone portable ou sur une tablette... Vous ratez 70% du film au niveau de l'image. Mmh. Et alors là, la question de Netflix, elle doit être au centre de la table, mais moi j'aimerais que... Enfin, tout ça, c'est des discussions qu'on doit avoir ensemble avec le CNC, avec les techniciens, avec le... Il y a beaucoup de choses. Nous, quand on fait des films parfois à la photo, et moi j'ai jamais travaillé encore pour Netflix, mais j'ai des collègues qui ont travaillé pour Netflix, parfois, certaines personnes se sont plaintes de ne pas savoir à qui ils parlaient, de ne pas trouver l'interlocuteur. Alors maintenant, ils arrivent en France. Ils vont prendre des bureaux à Paris. Il semblerait que ce soit plus simple. Mais il faut en tout cas se poser la question de la redistribution des choses. On est en France. les Américains débarquent. Et il y a quand même une exception culturelle en France. Et en principe, et c'est aussi pour ça que le CNC existe, l'idée qu'il y ait un cercle vertueux qui permet à des films plus petits de se faire quand des films margent beaucoup.
Alors Julien Duval, vous êtes sociologue, pas économiste, mais quand même Netflix, par exemple, ces nouveaux acteurs qui drainent avec eux aussi des nouveaux usages, est-ce que c'est le loup dans la bergerie ou est-ce que c'est peut-être aussi une chance pour le secteur, comme l'évoque Gilles Porte, de se repenser ?
C'est bon, évidemment difficile de faire des pronostics, mais il faut quand même peut-être rappeler que il y a une difficulté économique qui est posée par ce développement de ces acteurs numériques. C'est que Gilles Porte faisait référence à l'instant à la question de l'exception culturelle et au système français qui est dont un élément fondamental, c'est une forme de redistribution des recettes à l'intérieur du cinéma. C'est bon, grossièrement pour aller très très vite, une redistribution des films qui font beaucoup de recettes vers ceux qui ont des difficultés à se financer. Ce système a été amendé parce que déjà le cinéma a connu des difficultés importantes avec l'apparition d'un nouveau média dans les années 70 avec la télévision. Ce système a été transformé avec une certaine efficacité en France dans les années 80 puisqu'il y a un prélèvement a été opéré sur les chaînes de télévision. Bon, et la question qui se pose maintenant en fait est un petit peu comparable à celle qui se posait dans les années 70, c'est une partie des spectateurs se déplace vers les secteurs numériques. Et par ailleurs, les télévisions prêtent un moindre intérêt au cinéma qu'auparavant et diffusent, les grandes chaînes en tout cas diffusent beaucoup moins de films qu'elles ne le faisaient il y a encore 20 ans. Et par ailleurs, elles voient leurs recettes publicitaires baisser, donc comme la taxe que prélève le CNC indexée sur le chiffre d'affaires, les recettes baissent. Et donc, on peut voir, c'est une optique qui est empruntée, les Netflix et les différents supports numériques comme des choses qu'il faudrait taxer ou taxer davantage, parce qu'ils le sont déjà un tout petit peu, pour dégager les recettes qui sont perdues du fait des difficultés avec la télévision aujourd'hui.
C'est un des facteurs qui explique aussi pour vous la baisse du nombre d'entrées en salle, 200... attendez que je me perde pas dans tous les zéros, 200 millions de tickets vendus l'an passé, ce qui est moins que l'année d'avant et qui est encore moins que l'année 2016 où il s'était vendu 213 millions de tickets. Ça, on peut dire que c'est l'année dernière la faute à la Coupe du Monde, la faute au bel été, la faute au mouvement des Gilets jaunes, mais au-delà de ça.
Vous avez des enfants ?
Je vous dirai pas, mais peut-être.
Mais ça, en tout cas, c'est intéressant. Et moi, je vous poserai la deuxième question.
Qu'est-ce qu'ils sont allés voir
au cinéma ? Mais oui, mais combien de temps ils passent par jour devant une tablette, devant un téléphone portable ? Ils regardent pas la télévision. Ils vont pas souvent au cinéma. J'imagine que si nous tous les trois on a des enfants, ils y vont un peu plus que la moyenne des gens parce qu'on essaye d'obliger. Parce que peut-être ils ont la chance d'être dans un lycée à Paris où il y a des professeurs qui les amènent au cinéma. Mais objectivement, ils ont le cinéma gratuitement.
Une grande diversité des films proposés à Paris.
Une grande diversité,
c'est quand même une exception, une particularité.
Quand vous avez une famille qui a 5 enfants ou 3 enfants, je veux dire, c'est un coup d'aller au cinéma. Donc s'il n'y a pas une véritable politique des lycéens, des profs, en tout cas, s'il n'y a pas cette prise de conscience, qu'est-ce que c'est que voir un film ensemble, en groupe ? Qu'est-ce que c'est que voir un film en discutant après du film ? C'est aussi ça, le cinéma. C'est parler d'une expérience qu'on a vécue ensemble, ce qui est évidemment très différent d'une expérience devant sa propre tablette ou devant son téléphone portable. Mais c'est évident que, de toute façon, les réseaux sociaux, Internet, changent totalement la donne vis-à-vis des salles de cinéma. On doit repenser la salle de cinéma et on doit repenser la distribution et la concertation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une surproduction ? Trop de films qui sont produits et qui sortent chaque année ?
Ça, je l'entends depuis très souvent. Alors, évidemment,
une durée de vie extrêmement réduite en salle.
Non, mais j'entends, mais on est d'accord, il y a 23 ou 24 films, 25 films qui sortent tous les mercredis ou en septembre, octobre, novembre, décembre en France. Qui peut voir 25 films par semaine ? Personne. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de dire qu'il y a trop de films. J'aimerais qu'on mette des noms sur ces films. Quels sont les films qui sont en trop ? Est-ce que ce sont les 15 comédies sur le même sujet avec les acteurs bankable ? Ou est-ce que c'est le film qui fait pas d'entrée, qu'on n'arrive pas à voir, qui passe pas à la télévision, qui a pas d'affiche, et qui est dégagé de l'affiche au bout d'une semaine parce que personne n'a vu ? Mettons un nom sur ces films et arrêtons de dire qu'il y a trop de films. Mais quels sont ces films qui sont en trop ? Et si vous interrogez les différents acteurs, et vous verrez qu'on n'arrive pas au même constat.
Julien Duval.
Oui, peut-être. Enfin, sur le la La question de la surproduction, c'est un facteur qui est un petit peu bizarre parce qu'on peut se demander, évidemment, la surproduction contribue au raccourcissement de vie des films en salle, à cette rotation accélérée, et elle est très nette, hein, et elle a des tas de conséquences, elle n'a pas les mêmes effets sur les différents types de production, mais un facteur qui est quand même important de cette circulation, de la rotation accélérée des films, ça a été la stratégie, enfin bon, ce qu'on appelle habituellement les blockbusters, bon, qui s'est quand même généralisée. Qui est apparu dans les années 70 et qui maintenant est devenu un phénomène très ordinaire, c'est-à-dire des films qui sont très massivement distribués dans un très grand nombre de salles. Bon, et la surproduction est en partie une réponse à ce phénomène, et en tout cas la question de la rotation accélérée des films n'est pas le seul produit de le seul résultat de la surproduction des films, mais aussi le résultat de ce qu'on appelait l'idée de saturer les salles, bon, ce qu'est le principe de la stratégie des blockbusters. Voilà, je dis ça juste pour.
Question se pose pour l'édition actuellement.
Bien sûr, alors, vous savez, quand je fais Quand la mer monte, il y a 14 ans, j'ignore tout ça. Je fais une histoire d'amour, et puis finalement, je deviens politique parce que j'ai pas le choix. Je découvre qu'en France, il y a 5000 écrans. Je sors le même jour qu'un lundi noir de fiançailles, la Warner. 1000 copies, donc 1000 écrans. Il y a 23 films qui sortent le mercredi. Nous, on est à 73 copies. Voilà. Et donc, on se retrouve dans ce marché avec la Warner qui a une politique extrêmement agressive et qui oblige certaines salles à passer son film 10 fois, sinon ils n'ont pas de copie. Donc, Quand la mer monte ne peut pas avoir accès à certaines salles. Et d'autres films, Quand la mer monte, on s'en est sortis miraculeusement. Donc, trop de films ou parfois peu de films prennent trop de marché. C'est-à-dire que il est nécessaire, et c'est pour ça que quand on parle de Netflix puis les autres qui vont arriver derrière, parce qu'il y a pas la Netflix, c'est aujourd'hui Netflix, mais demain il y en aura 3 ou 4 ou 5 autres ou 10 autres, il faut qu'il y ait une régulation et une redistribution politique de tout ça, d'avoir un distributeur qui impose 1000 copies sur un film. Voilà, qu'on arrête de nous parler de diversité. D'ailleurs, j'en profite pour parler, puisqu'on parle de diversité, moi je suis très sensible au mouvement 50-50. On parle de parité, d'un manque de parité, d'un manque de diversité. J'en profite pour dire, pour rendre un hommage à ces 16 comédiennes qui ont écrit un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Elles seront pas au César ce soir, ou alors si elles sont, c'est pour voir les autres.
Elles étaient à Cannes.
Aucune n'aura un César. Aucune n'aura un César, pas parce qu'elles n'ont pas de talent, c'est parce qu'elles n'ont pas d'opportunité. Les rôles qu'on a proposés aux comédiennes ce soir, on leur a pas proposé.
Vous y êtes sensible, mais vous imaginez ou attendez quel type de mesures pour favoriser cette parité?
Moi, je voudrais qu'on mette les acteurs, c'est-à-dire les monteurs, les techniciens, les réalisateurs, les distributeurs autour d'une table, les producteurs, et qu'on échange, qu'on discute et qu'on réfléchisse ensemble. Plutôt que de jouer les victimes vis-à-vis du marché américain, c'est une chance d'avoir la possibilité aujourd'hui de montrer des films sur Internet. Vous savez, quand la mer monte est sorti, moi j'ai mis un lien, il était n'importe qui pouvait le télécharger. Je me tirais une balle dans le pied, mais quelque part j'avais pas le choix.
Un mot de la réalisatrice, tiens, Pascale Ferrand. Est-ce que sa prophétie s'est réalisée? Elle est l'auteur d'un rapport qui porte son nom, où elle évoquait la disparition à venir des films du milieu. Est-ce qu'on y est? Ça y est, Julien Duval?
Je pense qu'on n'y est pas tout à fait, mais le diagnostic néanmoins, enfin, désignait quelque chose de. C'est-à-dire qu'il y a toujours des films. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle les films du milieu. Bon, la définition qui était souvent donnée était en termes de budget. Les films du milieu étaient les films qui n'avaient ni de petit budget ni de très gros budget. Bon, quand on regarde les données du CNC, il n'y a pas de tendance très très nette à la disparition de ces films-là. Bon, en revanche, par contre, il est vrai que les films à gros budget sont de plus en plus à gros budget. Bon. Mais c'est un phénomène. Enfin, moi, il me semble que dans cette notion de film du milieu, il y avait l'idée, mais qu'un processus qui est de longue durée, enfin, qui s'est joué sur les 20 ou 30 dernières années, qui est l'une des difficultés pour des gens qui sont issus plutôt de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur ou d'un cinéma qui est à relativement faible diffusion, à monter en régime. Enfin, disons que ce type de montée en régime qui était fréquent dans les années précédentes et qui a été à l'origine, bon, du cinéma d'auteur, enfin, du rayonnement, enfin, du cinéma d'un cinéma d'auteur français, bon, qui avait un certain public, bon, est devenu plus difficile sur ces dernières décennies. Et je crois pas, enfin, en ce sens, il n'y a pas eu le groupe des 13, je crois, le club des 13. Enfin, ce diagnostic reste juste.
Je reste juste là-dessus, oui. Juste un mot pour terminer avec vous, messieurs Julien Duval et Gilles Porte, sur les politiques publiques qui ont pu être mises en place en faveur du secteur, et notamment les coups de pouce financiers comme le crédit d'impôt pour attirer les tournages étrangers aussi sur le territoire français. Wes Anderson tourne d'ailleurs en ce moment son prochain film, The French Dispatch. En Charente, vive le crédit d'impôt international, dit la région.
Quelques bâches, des silhouettes, impossible d'en savoir plus sur le nouveau film de Wes Anderson. Même de jour, les indices sont rares. Voici un cliché du tournage de The French Dispatch, qui est certainement le secret le mieux gardé d'Angoulême.
Quand c'est un tournage français, on les croise bien, mais là j'avoue qu'on ne croise personne.
Ils nous ont dit qu'il y avait un grand casting, et on n'a pas vu beaucoup de personnes, effectivement.
Tout le monde en parle, mais personne ne voit rien.
Le réalisateur américain a choisi Angoulême pour son passé historique, fortement imprégné de la Seconde Guerre mondiale. Cette super production raconte le quotidien de journalistes américains correspondant à cette période à Paris. Au casting, des figures incontournables comme Benicio del Toro, Bill Murray, Léa Seydoux, Cécile de France, pour n'en citer que quelques-uns. Si Wes Anderson préserve le mystère autour du film, il y a un heureux dans l'histoire. Ils étaient d'ailleurs ensemble en novembre dernier pour les illuminations de Noël.
Avoir un tel casting et un tel film ici, c'est en effet historique. La particularité de cette production et du film donc de Wes Anderson, c'est que tout est fait ici à Angoulême et en Charente.
Avant même sa sortie, le film a déjà battu un record. Le tournage coûte 27,5 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine. C'est la production la plus importante en France.
Alors à défaut d'exporter massivement nos films, est-ce que la France va devenir une terre de cinéma pour ses tournages? C'est ce que dit le CNC, la France grande terre de tournage, alors que la Cour des comptes dit, oulala, une surenchère fiscale sans effet. Voilà à quoi on assiste avec ce crédit d'impôt. Pour vous,
moi, j'ai porte. D'abord, j'ai fait il n'y a pas longtemps à la photo l'échange des princesses de Marc Duguin. L'échange des princesses, c'est, tout se passe en France, enfin en Espagne, c'est une histoire entre donc on échange des princesses entre la France et l'Espagne. On a tout tourné en Belgique, rien en France, pour des raisons uniquement financières. C'était en 2016. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer.
Mais 2016, justement, a permis aussi le rapatriement de Au revoir là-haut,
ouais,
d'Albert Dupontel, alors qu'il devait se tourner en Hongrie,
s'est tourné
en grande partie en France.
Il y a
France.
Plus de films qui sont partis, qui sont restés. Il y a beaucoup de techniciens aujourd'hui qui n'arrivent plus à travailler en France, et je pense aux monteurs son, notamment au niveau de la post-production, au niveau du son. Et il faudrait, moi je reviens sur l'histoire des studios. En France aujourd'hui, il n'y a plus de studios. Les studios ferment. Alors, vous avez encore quelques studios qui résistent, mais à quel prix? À Brie-sur-Marne, mais c'est une bataille, ils sont très très mal. Donc, on rêvait que le cinéma revienne en France, il faudrait qu'il y ait des studios pour qu'ils puissent y avoir des films en studio.
Vous êtes donc nommé ce soir, Gilles Porte, pour, dans la catégorie meilleur film documentaire pour Le procès contre Mandela et les autres, que vous avez co-réalisé avec Nicolas Champeau. D'ailleurs, tout à l'heure, il vous cherchait partout parce que vous n'aviez pas encore voté.
Ouais.
Vous votez, vous êtes nommé et en même temps vous pouvez voter pour les autres catégories.
Moi oui, mais pas Nicolas. Mais il pourra voter l'année prochaine.
Ah, mais alors ça c'est au titre de quoi?
Mais parce que en fait, j'ai
parce que vous
voté...
êtes nommé ou parce que vous êtes membre de la CID?
Ça n'a rien à voir. Bon, j'ai eu le droit de voter, en tout cas pour ce qui me concerne, une fois que j'avais été nommé pour qu'on en remonte. En fait, ceux qui sont nommés ont le droit de voter. Après, vous pouvez être parrainé. Vous avez le droit de ne pas être nommé un jour et vous pouvez être parrainé par des professionnels. Voilà, et on est à peu près 4000, entre 4000 et 5000 à voter.
Et donc là, vous votez pour toutes les catégories?
On vote pour toutes les catégories. C'est vrai que je n'ai pas voté, mais je crois que c'est jusqu'à 16 heures.
J'ai 15, pas voté. 15 heures.
Non, mais vous votez 15 heures? Non,
oui,
non,
faites-le vite en sortant du studio. Ouais. Ouais. Et alors, vous n'avez pas le droit de dire pour qui vous allez voter.
Mais non, mais je dis à Nicolas, écoute-moi bien, Nicolas, si tu m'écoutes, parce que tu dois m'écouter, je voterai pour un concurrent. À un moment donné, il faut être beau.
Dans votre catégorie?
Ouais, bah oui, il faut être beau seigneur.
Oh là là.
Non mais il y a des très beaux films qui vont être en face.
Bon, ben on aura la réponse ce soir. Cérémonie des Césars, la 44e qui sera diffusée en direct sur Arte. Merci beaucoup à vous Gilles Porte. On croise les doigts donc pour le procès contre Mandela et les autres qu'on a beaucoup défendu ici à France Culture et notamment autour de la grande table. Très très beau film. Merci bien, mille fois.
Avec Nicolas qui a été très très bien. Je le dis.
Qui était venu dans l'émission. Merci beaucoup à vous Julien Duval d'être passé aussi autour de notre grande table à l'occasion de de cette cérémonie des Césars. Je rappelle le titre de votre livre, Du cinéma au XXe siècle, entre la loi du marché et règles de l'art. C'est aux éditions du CNRS. Un grand merci à toute l'équipe pour cette belle semaine. À Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et de Mathilde Tonfourcade à la réalisation aujourd'hui. C'était Milena Elig avec Alice Seyed.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Bel après-midi, bon week-end sur France Culture, je vous dis à lundi.